Pour assister à l'enregistrement de l'émission, réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page du Pont des Artistes. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
France Bleu, les concerts privés. Les concerts privés présentés par Élodie Suigo avec Natacha Saint-Pierre, Véronique Sanson et la Grande Sophie.
Jeudi 10 mai à 20h30 sur France Bleu. France Bleu, une radio du groupe Radio France.
France Inter.
La différence.
Et la différence, c'est maintenant avec la bassiste J'y suis et Daniel Mermet.
Nicolas dégage, Nicolas bon débarras, Nicolas on l'a viré, Nicolas, oh, oh. Et il se trouve que moi aussi je m'appelle Nicolas. Et je peux vous dire que pendant 5 ans, ça n'a pas été le prénom le plus facile à porter. Alors je suis bien content, moi je laisse volontiers ma place aux François. Ah, les François. Et ça sera plus facile pour eux, je pense. Mais bon, voilà. J'espère qu'un jour, ça sera les Jean-Luc qui porteront le même prénom que le président. Allez, c'était Nico de Vienne. Ciao.
Allô, monsieur Mermet. Ben, j'écoute votre émission et je tiens vraiment à vous féliciter. Comme d'habitude, vous poussez les gens les uns contre les autres, mais c'est honteux comment vous pouvez diffuser des messages pareils où des gens insultent le président de la République française. C'est une honte ce que vous faites et vous rigolez de ça et vous mentez les uns contre les autres à longueur d'année. C'est pathétique. Vous êtes comme votre auditeur en parlant de Sarkozy. Et vraiment, je m'en fous de qui a été élu, mais de dire au président de la République, pauvre, casse-toi, pauvre con. S'il y a quelqu'un à qui on peut dire, casse-toi, pauvre con, c'est bien à vous. Parce que comme con, on fait pas mieux. Hein. À bientôt, monsieur Mermet.
Salut Daniel, salut les AMG, bah, je viens d'écouter l'émission d'aujourd'hui. J'ai pas osé appeler hier, hein. Un petit peu de pression quoi. Bon alors je sais que c'est méchant de dire ça, mais qu'est-ce que c'est jouissif de les entendre se plaindre. Je pourrais presque les prendre dans mes bras pour les consoler, mais non je veux pas quoi. Bon, alors le passage de ton reportage dans la mairie de Neuilly m'a mis les larmes aux yeux quoi. J'imaginais la pauvre petite mamie serrant son sac Vuitton toute tremblante à côté de son mari dont la montre témoigne à quel point il a réussi sa vie. Génial. J'ai cru qu'elle allait rendre l'âme en direct. Non, sans déconner, t'es passé à côté de la catastrophe, hein. Elle aurait flingué ton émission. Bon, je sais que tout ce que je dis, c'est pas spécialement gentil, mais putain, 5 ans au moins de frustration, ça laisse des traces, quoi. C'était François à Saint-Quentin en Picardie, la ville de Xavier Bertrand qu'il va falloir sortir aussi.
Bonjour Adrien Melin, je suis en train d'écouter l'émission là, d'aujourd'hui. Ben, j'ai un mauvais goût, quelque chose qui va pas. Et c'est la gauche qui a gagné, c'est le PS, c'est le parti qui voulait mettre Strauss-Kahn, non, comme candidat. Et puis bon, c'est le parti de Moscovici aussi, le directeur adjoint au numéro 2 en fait du cercle de l'industrie. Bon, c'est très bien, on a viré le nain, mais et après il y a les législatives, si la gauche elle en est là, et bien...
Au revoir Nicolas, adieu Guéant, bon vent Bertrand, au loin Baroin, bye bye Juppé, Copé, arrivederci Dati, Auf Wiedersehen, Hortefeu, aux fraises, Vauquiez, sur le paillasson, Besson, et bien sûr, ciao Bachelot. Eh oui, depuis dimanche soir, tout change, même les fleurs. Bonne chance aux tulistes de Hollande. C'était Pascal, de Lyon.
Bonjour Daniel Mermet, je viens d'écouter l'émission du lundi 7 mai qui m'a fait beaucoup de bien par le contenu, en plus la diversité des rencontres, avec une rencontre à la mairie de Neuilly qui était particulièrement intéressante, le jeune de l'UMP aussi, voilà. Et tous les gens qui sont spontanément venus à la Bastille, bon, c'est qu'un grand bonheur. Et je voudrais surtout insister sur la fin de l'émission, avec Jim Morrison entrecoupé des lamentations de Nicolas Sarkozy, qu'on n'entendra plus, j'espère. Voilà. Bravo encore, bon courage, à bientôt, Jean-François de Saint-Lary.
Bonjour, je dois à la basse j'y suis d'avoir connu il y a au moins 5 ou 6 ans l'association Les Anciens Appelés et Amis en Algérie contre la guerre, le 4ACG, et que j'ai rejoint et encore merci. Donc à ce nom-là, j'ai un message à vous donner. La date du 8 mai 45 est importante des deux côtés de la Méditerranée, bien sûr. Les plus célébrés en France, et pourquoi ? Eh bien, c'est qu'à Sétif, comme dans toutes les villes de l'Hexagone et de l'Empire colonial français de l'époque, c'était l'allégresse de la victoire contre Hitler. Mais là, au slogan « Abat le fascisme » fut ajouté « Abat le colonialisme » par des Algériens, et souvent proches des soldats indigènes, si nombreux, qui est offert très bien l'armée française renaissante et enfin combattante. Donc très vite, les choses se sont envenimées, interdiction du second slogan, et des quelques drapeaux algériens, d'ailleurs il avait été créé depuis très peu, arrestation, bagarre, blessés, morts. Selon les sources officielles de l'époque, la propagande quoi, à peu près autant de chaque côté, pour ce jour-là et pour Sétif seulement. Mais pendant plus d'un mois, l'armée et les milices pieds noirs ont massacré dans toute la région de l'Est constantinois, notamment à Guelma, des milliers et des milliers d'Algériens de façon inouïe. Et les historiens des deux rives aujourd'hui s'accordent à peu près à reconnaître une proportion de une victime pieds noirs, et encore, contre au moins 100 victimes d'Algériens. Ils s'accordent surtout à reconnaître que cette cassure fut dès lors définitive au point que c'est le vrai début de la si longue guerre de libération. Et 9 ans avant la création du FLN. Donc encore merci là-bas si j'y suis, Rémi, à Saint-Nazaire.
Merci Rémi d'évoquer effectivement le 8 mai 45 à Sétif et à Guelma et dans d'autres villes d'Algérie où fut effectivement réprimée cette manifestation patriotique, nationaliste, qui était qui allait être à la base de la guerre d'indépendance qui allait commencer en 1954. Une répression extrêmement violente. On s'interroge toujours sur le nombre des victimes du côté algérien, entre 8000 et 15000, mais il faut quand même rappeler qu'en 2005, lors d'un discours officiel, l'ambassadeur de France en Algérie a évoqué une tragédie inexcusable. Donc il y a une reconnaissance de la France, 2005, bon, mais qui existe quand même sur ces massacres. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, sur lequel il faut se revenir et c'est évidemment se documenter. Alors, beaucoup de messages, bien sûr, sur l'élection présidentielle, sur les missions qu'on vous a présentées hier, et y a un petit parfum de retour, enfin d'évocation de 1936. Ah, le Front populaire aujourd'hui dans les urnes et demain dans la rue, la lutte continue. On se souvient le Front populaire où la bourgeoisie revancharde traitait les ouvriers, les électeurs du Front populaire de salopards en casquette. Nicolas Sarkozy, lui, c'était la racaille. Vous vous souvenez quand même la racaille. Et ce qui est remarquable dans l'élection de dimanche, c'est le vote dans les quartiers populaires, notamment dans le 9-3, dans la Seine-Saint-Denis, où il y a eu un vote très favorable au président socialiste, et notamment chez les Français issus de l'immigration. Comme on dit, qui ont été nombreux à voter pour le président socialiste. C'est pas rien, c'est pas rien. Il se pourrait bien que la racaille relève la tête. Et la racaille relève la tête, et ben c'était un de nos reportages en 2010, fin 2010. On s'était rendu à l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois. Laquelle usine est menacée? Les salariés et les intérimaires, d'ailleurs, de l'usine sont menacés par des plans sociaux et des menaces de fermeture. Il y a 3500 emplois qui sont menacés. Tous ces plans sociaux ont été coincés pendant évidemment la période électorale, mais après les législatives, ça va être les premiers défis que le nouveau gouvernement aura à affronter. Et d'ailleurs, il en avait été question dans la manif du 1er mai 2012 où l'équipe de la BASI J'y suis avait rencontré, écoutez bien, l'un des représentants syndicaux de PSA Aulnay.
C'est pas aux travailleurs de payer pour les spéculateurs. C'est pas aux travailleurs.
Ça, c'est les ouvriers de PSA, Peugeot, Citroën, Dolnay, pas seulement, d'autres implantations de PSA qui manifestent ici le 1er mai, qui défilent dans le cortège pour dénoncer bien la suppression d'usines, notamment celle d'Aulnay sous bois dans le 93, et donc la suppression de plus de 3500 emplois à Aulnay seulement, chez Peugeot. Bonjour monsieur.
Mister Mercier.
Ça va? Bonjour, ça va et vous?
Ouais, bien.
On est avec vous, Jean-Pierre Mercier. Je vous laisse le soin de vous présenter.
Jean-Pierre Mercier, délégué syndical CGT à l'usine de PSA Aulnay.
Alors là, vous avez la veste PSA Peugeot avec inscrit derrière en rouge au marqueur non à la fermeture. Qu'est-ce qui se passe à Aulnay?
Il se passe à Aulnay que la direction de Peugeot a décidé d'annoncer après les élections présidentielles et législatives comme bon nombre de patrons de fermer l'usine de PSA Aulnay. Vous savez, il y a un paquet d'employeurs qui ont gardé sous le coude les plans sociaux, les plans de licenciement, les fermetures d'usines pour après les élections. Bah, nous, on fait partie du lot. Et aujourd'hui, on manifeste, c'est une occasion pour nous de rappeler à tout le monde et de protester contre cette menace de fermeture. Parce que pour nous, il n'y a aucune raison qu'elle ferme. La seule raison invoquée, c'est la rentabilité financière, c'est-à-dire foutre au chômage 3500 travailleurs et surcharger de travail nos camarades de Poissy. C'est ça qu'ils veulent faire. Pour toujours faire plus d'argent, plus de fric.
Alors parce que ce qui se passe, ce que vous dites en tout cas, c'est qu'il y a un espèce de plan comme ça de la part des dirigeants de laisser passer l'échéance présidentielle.
Bien sûr, oui.
Pour fermer après.
Oui, c'était dans leur note confidentielle qu'on a révélée au mois de juin dernier où texto, c'était marqué il faut tenir compte du calendrier électoral français. Et ils avaient prévu de faire l'annonce de la fermeture d'Aulnay en septembre 2012. Bon bah cette note, on l'a eue entre les mains, on l'a publiée en juin 2011 et depuis, on se bagarre, on bataille pour maintenir les emplois, pour maintenir nos salaires parce que c'est notre seule richesse en tant qu'ouvrier. La seule arme qu'on possède, c'est notre mobilisation, c'est notre force collective, c'est la grève qu'on sera capable d'organiser dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et je vous assure que même si c'est Hollande, eh bien il va continuer à entendre parler des salariés de PSA Aulnay parce qu'on ne se laissera pas foutre à la porte comme ça sans rien dire. Vous savez, nous on joue notre peau dans cette affaire. Quand on veut licencier un ouvrier, c'est on veut lui prendre toute sa richesse. Et nous, les syndicats d'Aulnay, on a entendu François Hollande la semaine dernière dire que s'il y avait des patrons qui avaient sous le coude des projets de fermeture d'usines, eh bien, ils ne laisseraient pas faire. Bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je peux vous dire que nous, on lui dit banco, on vous a déjà mâché le travail. Alors moi, je lui demande, est-ce que son futur ministre de l'Industrie, est-ce qu'il sera capable de signer notre accord? Et qu'est-ce qu'il fera pour que Peugeot le signe à son tour? Sur Aulnay, c'est 3500 travailleurs qui sont menacés, 3000 CDI, 300 intérimaires et à peu près 200 sous-traitants et fournisseurs qui travaillent sur le site. C'est une vraie catastrophe sociale pour le département si jamais cette usine devait fermer. C'est-à-dire vraiment, ça foutrait par terre non seulement la commune, évidemment, mais le département, voire la région. 3500 emplois directs, ça veut dire derrière plus de 10 000 emplois qui sont supprimés, ça veut dire des services publics qui sont arrêtés, ça veut dire la ville d'Aulnay qui n'a aucune rentrée financière. Voilà, c'est une vraie catastrophe sociale. Et ça, Peugeot n'en a strictement rien à faire. Elle dit aux politiques, c'est à vous de gérer la misère. En gros, je vous donne la patate chaude. Bon, eh ben, on va voir comment les politiques ils vont gérer la misère, mais nous, on n'a pas envie de tomber dans la misère. Donc on va se battre jusqu'au bout.
Voilà un défi pour le nouveau pouvoir, le nouveau gouvernement, pour juste après les législatives, très probablement. Il y a 2 ans, en fin 2010, avec Pascal Pascariello, on avait fait un tour dans cette usine pour faire le portrait d'un syndicaliste, Ahmed. Et histoire de, voilà, dans la prévision de ce défi, de connaître un peu mieux ceux qui sont à l'intérieur de l'entreprise, et évidemment à commencer par l'un de ceux qui se battent. C'est jusqu'à 16h, et c'est là-bas si j'y suis.
Non mais à première vue, vous, si vous passez dans votre véhicule et que vous voyez 4 jeunes comme ça devant un café, en train de boire leur petit café tranquillement le matin, est-ce que ça vous effleurerait l'esprit qu'on est un parti syndicaliste ou quoi que ce soit, non? Qu'on est engagé, non? À aucun moment.
Vous avez grandi où?
Dans l'Oise. C'est impérial.
C'est une ville bourgeoise.
Vous allez venir même du 16e, hein, si vous avez la tête du Reveux. Qui travaille à l'usine, bah pour eux c'est la même.
Et
se porte par le changement, la transmission de l'élite. Du coup, ils sont sous le choc en voyant la nouvelle génération ici de l'immigration et qui rejoint l'élite, alors ils ne supportent pas ça.
Le vrai problème, c'est qu'ils s'attaquent à Ahmed pour tout un tas de raisons. Ils s'attaquent à Ahmed parce que c'est un jeune camarade de 28 ans qui, depuis 4 ans, milite, qui a ce qu'on appelle du charisme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le suivent. Et c'est parce qu'il est un bon militant que la direction s'attaque à lui, et parce que c'est un militant, je le redis, honnête, franchement honnête.
Avant tout, je suis un ouvrier. À mon avis, un délinquant, il ne viendrait pas travailler. Il ne viendrait pas travailler pour 1300 euros par mois. En plus, c'est fatigant, il faut se réveiller tôt. Voilà, il fait froid, moi je travaille à l'extérieur et tout. Et là, vous voyez qu'il neige. Mais voilà, il neige, mais moi je travaille toujours à l'extérieur.
La force des travailleurs,
c'est la grève.
La force des travailleurs,
c'est la grève.
La force des travailleurs,
c'est la grève.
C'est les ouvriers.
Ouais.
Que ce soit un arabe, un noir, un chinois, un français, on respecte tout le monde, on est des ouvriers.
Ouais.
C'est eux là-bas qui ne nous respectent pas.
Ouais.
C'est eux là-bas qui doivent nous respecter.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'on fait là? La force des travailleurs,
c'est la...
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Pascal Pascariello. La racaille relève la tête.
Flight number 2, arriving from...
Il est 10h. Et là, j'ai rendez-vous sur le parking de l'usine de Peugeot Citroën, PSA, à Aulnay. C'est dans le 93. Dans la banlieue parisienne, j'ai rendez-vous avec Ahmed. Alors, je suis sortie de la gare, mais il n'y avait pas de bus à cette heure-ci parce que c'est les bus qui vont à l'usine de PSA sont calés sur les horaires de l'usine. Donc là, j'y vais à pied et c'est indiqué soit je vais à gauche à Sarcelles, au Blanc-Ménil, à droite, j'ai Villepin, Tremblay en France, et tout droit, c'est PSA, Peugeot Citroën. 4000 salariés, dont 3000 à peu près ouvriers. Voilà. Et je suis sur le parking de l'usine.
Bonjour.
Bonjour. Ça va et vous?
Bien passé.
Oui. Alors Ahmed, ça y est, on se retrouve sur le parking de l'usine et il est 10h.
Tout ça, là je suis fatigué. Même pour parler, j'ai du mal à parler. On a fait 9 ans de nuit.
9 ans de nuit?
Ah ouais, presque 9 ans de nuit. Maintenant je passe en journée, c'est dur. Hein.
Et vous, ça fait combien d'années que vous travaillez à Peugeot, Citroën, hein?
PSA, ça fait 10 ans. J'ai grandi là, à côté. Quand je prenais les tourettes avec mon père, je la voyais, l'usine, je voyais Citroën. J'ai grandi à quoi, 3 km d'ici. Hein. Tremblay en France, j'ai grandi là-bas. Et après, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'habite à Villepinte, à côté. C'est une ville à côté collée.
Et vous, vous avez quel âge?
Moi, j'ai 28 ans.
Vous faites quoi à l'intérieur de l'usine?
Je suis cariste. Mon salaire ne dépasse pas les 1750. Avec ma prime de nuit, hein. Si on enlève la prime de nuit et tout, à mon avis, ça fera 1300 euros, même pas.
1300 net et sinon 1750 net.
Ouais, et j'ai hâte d'être à 15h pour savoir qu'est-ce qu'ils me reprochent. Je suis convoqué à 15h pour une demande de licenciement. Le motif, je sais pas pourquoi. Ils vont me le dire tout à l'heure, le motif. Je suis déjà 18 jours de mise à pied.
C'est-à-dire?
Il y a eu déjà 5 sanctions déjà avant.
5 sanctions?
Ouais.
En combien de temps?
À peu près un an et demi.
Depuis un an et demi?
Ouais. C'est un mois de salaire, on va dire 1700 et quelques.
Et comment vous avez fait?
Il y a la solidarité des ouvriers, et de mes copains, mes camarades. Ils ont fait une collecte pour moi. On avait récolté à peu près plus de 4000 euros. On m'a remboursé les 6 jours de mise à pied. Plus on avait remboursé j'étais pas le seul. Parce qu'à un certain moment, la direction convoquait un militant par semaine des délégués. Et là, on est en procès avec eux. On est 8 délégués qu'on attaquait au prud'homme PSA pour discrimination syndicale.
C'est parce que vous êtes syndiqué, enfin vous êtes délégué.
Ah oui, je suis délégué, ça fait 4 ans que je suis délégué. Auparavant, les 6 ans qui sont passés avant, de 2000 à 2006, jamais de problème, j'étais même l'exemple.
Et les sanctions, c'est pour quel motif?
C'est pour le motif, c'est toujours, soi-disant, j'insulte des chefs, moi. Mais moi, j'insulte pas. Regardez comment je suis, 1m88, je fais presque 100 kilos. J'ai des surnoms, le monstre, la racaille, le délinquant, la mafia. Voilà. Et non, ça, c'est une étiquette qu'ils veulent me donner. Moi, j'ai jamais insulté quelqu'un de ma vie. Je suis le chemin de mes frères.
Vous avez suivi le chemin de vos frères? Ah, on va aller voir un peu. On part en voiture.
Mujadas, Xavier Mathieu. Vous vous souvenez tous, évidemment, de cette altercation entre le journaliste et le syndicaliste. Altercation qui a montré, s'il en était besoin, le fossé entre les médias dominants et ce que vivent chaque jour nombre de Français, nombre de salariés. Cette altercation est un raccourci formidable, mais même si Pujadas n'est pas le seul à penser ainsi, la plupart des grands médias pensent la même chose. Les syndicats ne sont pas représentatifs en France, la grève prend les usagers en otage, elle affaiblit l'entreprise, tout ça n'a même pas besoin d'être expliqué, réfléchi. Il s'agit d'évidence. Vous vous souvenez Le vieil homme et la mer, le livre d'Ernest Hemingway, ce vieil homme has-been qui n'arrive plus à pêcher de poissons au point que son copain, un jeune garçon, est obligé de le laisser seul. Et le vieux part en mer et il va pêcher, vous vous souvenez ? Un formidable poisson, un énorme espadon, long comme son bateau, énorme, énorme. Le vieux souffre, le vieux en bave, mais le vieux a le poisson. Mais lorsqu'il revient vers la grève, vers la Havane, les requins arrivent. Et les requins vont inévitablement, irrémédiablement bouffer le grand espadon, bouffer le grand poisson. Et lorsque le vieux arrive enfin sur la grève, il n'y a plus que la tête et l'arête du poisson. Et il rejoint sa bicoque au lever du jour, portant les rames et portant le mât et portant la toile et tombant à plusieurs reprises. Ça finit bien, ça finit bien. Non seulement parce que le vieux retrouve le garçon qui va lui acheter des trucs à manger, si vous vous souvenez. Et aussi parce que le vieux a gagné. Le vieux a gagné. C'est la victoire dans la défaite. La victoire dans la défaite. C'est-à-dire que le vieux a retrouvé sa dignité, sa grandeur à cause du combat, à cause de la lutte qu'il a livrée. C'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui avec ces salariés de Peugeot, Citroën, Aulnay-sous-Bois. Ouais, pensez-y. À ces gens qui luttent, qui résistent, parce qu'ils ont tout simplement le sens de la dignité, je vais employer un très gros mot, le sens de l'honneur. À la fin de l'histoire, du vieil homme et la mer, le vieux s'endort et rêve de Lyon.
Le bus vient de le déposer. Il pointe et ne reverra le jour qu'avec la rosée. D'ailleurs, l'odeur lui donne déjà la nausée. Il rentre dans le vestiaire, défait le cadenas ou son casier, pose le gueuse du casse-dalle, enfile sa blouse et s'assied. Enlève ses chaussures, met les chaussures de sécurité, prend ses gants, son cutter, quelques pièces pour le café. Il regarde l'heure, plus que 5 minutes avant de commencer. Il referme à clé, gavé d'avance, rien qu'y penser. Puis pas à pas, se dirige lentement vers sa machine. Regarde la mine des autres, fatigué mais content de quitter l'usine. Écoute les consignes du gars de l'équipe précédente. S'il y a rien, c'est bon signe, la nuit sera moins fatigante. 21h pile, le gars lui souhaite bon courage. Ramasse ses affaires et file, le v'là face à l'ouvrage. Pas le temps de s'installer, deux pièces à contrôler. Emballer vite fait avant que deux autres prennent le relais. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie.
Ils m'ont pris toute ma jeunesse, là. Déjà je suis jeune et ils m'ont pris toute ma vraie jeunesse. De 18... Moi je suis rentré à 18 ans moi chez eux. J'ai fait un bac pro et après j'ai arrêté. J'avais marre. Je me suis inscrit là-bas d'intérim, le lendemain ils m'ont appelé, ils m'ont emmené à Citroën.
Vous pensiez aller à l'usine, vous, Ahmed ?
Non, je ne me voyais pas du tout à l'usine, moi. Je me voyais, ça va être un peu gros, mais je me voyais footballeur, moi, comme tous les petits jeunes.
Et alors, l'usine, le premier jour, ça a été...
Oh là là ! Déjà, il y a une phrase qu'ils m'ont dit chez PSA quand je suis rentré, je l'oublierai. C'est rentré dans ma tête, ils nous font une visite d'une journée, et à un moment, ils nous ont dit une phrase... On n'avait pas le droit à l'erreur. Hein. Et une voiture de perdu, c'était 100 000 francs de perdu, 3 mecs au chômage. Cette phrase-là, je l'oublierai jamais de ma vie. Elle est... Genre, c'est grâce à eux qu'on vit. On arrive à vivre. Maintenant, moi, je pense pas. C'est grâce à nous qu'ils vivent, eux, moi, je pense. Hein. Parce que s'il n'y avait pas d'ouvriers, les voitures, elles sortent pas. Hein. Bon, après, quand on arrive, je suis arrivé sur la chaîne, le poste, moi, j'ai jamais touché un truc avec mes mains. Waouh, c'était dur. Bah, c'est les mains qui travaillent, l'esprit, là, ailleurs. On pense à l'extérieur, on pense à tout. Hein.
Votre esprit, il était où
vous... Oh, il était partout. Hein. Je me disais, qu'est-ce que je ferais ce week-end? Bon, j'étais jeune, 18 ans. Je m'imaginais beaucoup de choses. Hein. Mais c'est à la fin du mois, quand on voit la paye, on est 8000 francs à l'époque. Ouais, 8000 francs. Mais je me disais, bon, purée, pour un boulot comme ça aussi dur, 8000 francs, c'était rien du tout. Hein. Ah ben, y a mon meilleur ami qui m'appelle. Ouais, chinois. Quel café? Y a qui? Bah non, Ahmed, il voudra pas, je suis avec une journaliste. Ahmed, je pense pas à toi, Ahmed.
Mais il n'y a pas d'image.
Hein?
Il n'y a pas d'image.
D'accord, bon, vas-y, j'arrive.
Hey, elle ment là, hein, Pascal Pascariello. Elle ment, Pascal Pascariello, quand elle dit qu'il n'y a pas d'image. L'émission a commencé il y a plus d'un quart d'heure. On en a vu des images, non? On en a vu des images. On le voit, le Ahmed, 28 ans, 1m80 et quelques, presque 100 kilos. On voit l'ambiance, on voit l'usine, on voit ce qui se passe autour. On voit ça très, très bien. Et on comprend très vite la situation. Et on comprend qu'on est dans une situation paradoxale, parce que les luttes sociales, ce sont des vieilles lunes. Ces vieilles luttes sont de vieilles lunes. Les luttes ouvrières, c'est des trucs pour les comiques, pour les chansonniers, pour faire des sketchs. Luttes ouvrières, enfin, c'est des choses entièrement dépassées. Aujourd'hui, on vit dans un autre monde mondialisé. Vous savez, le monde mondialisé. Il n'y a plus la place pour toutes ces choses-là. Et puis alors, il y a un problème de culture avec ces gens-là. Ahmed, il y a des problèmes de culture aussi, et la tradition ouvrière, etc., le bleu de chauffe, le drapeau rouge, c'était très joli, mais ça c'est du passé. C'est du passé qui est peut-être pas entièrement passé.
À l'usine, je connais beaucoup de gens. Avant, j'ai jamais eu de copains français.
Ah bon?
Non.
Mais comment ça, vous êtes français en même temps, hein?
Ouais, mais regardez ma tête, je ressens pas vraiment un français. Quand je dis copain, j'avais pas beaucoup de liens avec des copains blonds, on va dire... Dans les cités, il y a quoi? Il y a 80%, c'est des maghrébins, d'origine maghrébine, et des africains. Hein.
Et vos copains de la cité, aujourd'hui, ils font quoi?
Ils travaillent tous parce que ils n'ont pas le choix. Hein. J'en ai beaucoup qui travaillent dans le transport. Ils font livreur, chauffeur-livreur. Pas prof, ils sont pas... Si, il y en a un qui est prof. Si, il y en a un qui est prof. Et j'en ai beaucoup qui font taxi, par contre. Là, c'est devenu la mode, maintenant. Dans les cités, il y en a beaucoup qui font taxi. Voilà, mais vous inquiétez pas, hein. Si vous voulez entendre qu'ils vendent du shit, ils tiennent les bâtiments, non, ils tiennent pas de bâtiments.
Ah, c'est pas rigolo, alors moi j'arrête. Hein.
Ah voilà, maintenant je comprends les journalistes, ils cherchent que ça, là, les dealers, les voyous, non.
Ah bah attendez, moi je me fie aussi au reportage de TF1, hein. Tremblay, c'était le titre, mon voisin...
Ça est un dealer.
Mon voisin est un dealer.
Ouais, j'avais la haine, hein. Mais ça c'est TF1 qui a fait une connerie, parce que ils ont interviewé beaucoup de gens, des adultes, mais dans le reportage ils n'ont pas montré les gens ce qu'ils disent. Ils ont mis que ce qu'ils ont voulu entendre, ce qu'ils ont voulu mettre, les petits jeunes qui insultent, voilà, non. Bah c'est, non.
Ça se passe à Tremblay en France, TF1, à 25 km de Paris, juste à côté de Roissy.
30 mars 2010.
Une ville verte et riche grâce à ses entreprises. 35 000 habitants, des pavillons, des immeubles résidentiels. Mais à quelques dizaines de mètres de la mairie, alors qu'on ne s'y attend pas, en plein centre-ville, dans ce quartier, un supermarché de la drogue. Au moins 6 immeubles sont occupés par des dealers le jour et une partie de la nuit. Les locataires sont excédés.
Si vous savez le mal vie que nous vivons ici, c'est la haine contre le trafic de drogue, insolence, menace, je vais t'égorger tout ça.
Monsieur. Vous en avez ras-le-bol, monsieur?
J'en ai ras-le-bol.
Je vais vous montrer où j'ai grandi. On est au centre-ville.
De Tremblay.
Voilà. Ça, c'est la cité.
Vous avez grandi où?
On a le gros tour là-bas, là. À 15 étages, là-bas, là.
De toutes les couleurs?
Voilà. Rouge, ouais, bon, on peut dire rouge, bleu, gris, là. Nous, ça fait depuis 2003, on est parti d'ici. Mes parents, ils habitent de l'autre côté. Du côté du Vergalon, ils ont un pavillon là-bas. Moi, j'habite à Villepinte.
Dans un pavillon aussi?
Voilà.
Et ça a fait quel effet justement quand vous êtes passé dans un pavillon?
Ah, c'était magnifique. Tu veux faire du bruit, tu fais du bruit. Tu veux pas faire du bruit, bah, y a pas de bruit. Hein. Les gens, ils dorment à 20h. Bah, c'est pas parce qu'on a un pavillon qu'on a réussi. Hein, parce que le pavillon, là, au jour d'aujourd'hui, on est en train de le payer encore. Hein. Je suis en train de payer un crédit. Hein. Mais moi, j'ai le pavillon parce qu'on voulait plus de... Par rapport à mes parents, nous, on habitait au 9e étage. Ma mère qui était malade, elle a arthrose, elle est malade, elle est vieille, ma mère. L'ascenseur, il y avait une année, l'ascenseur, pendant 6 mois, elle était en panne. Au 9e étage, ma mère, il faut la porter pour qu'elle... Quand elle descend, ok, mais pour monter, elle peut pas monter, il faut la porter. On a dit, allez, on achète. Avec mon père, ils s'ennuient pas maintenant. Ils cultivent les petites pommes de terre, les tomates, voilà, ils sont... Moi, je pouvais pas avoir un crédit tout seul, mon père, il pouvait pas avoir tout seul, ben, on a acheté la maison à deux.
Et vos parents, ils font quoi?
Ma mère, elle est mère au foyer. Et mon père, il travaille dans le bâtiment. Bon, maintenant, il travaille plus, il est retraité.
Ils sont arrivés, vous savez, en quelle année, vos parents, du Maroc?
Ouais, en 70. Voilà.
Allez, on sort.
Voilà une journée particulière dans la vie d'Ahmed, quand même. Hein. C'est indiqué, mais avec une stigmatisation, comme on dit, avec une répression patronale contre lui. Au fur et à mesure que les luttes prennent corps, alors la lutte sociale, la lutte de classe, non, enfin mettons ce mot-là de côté, c'est encore un gros mot, encore un gros mot. Enfin en tout cas, ça se passe à l'intérieur de l'entreprise et des gens comme, même si la grève est un droit constitutionnel, des gens comme Ahmed, on n'aime pas trop.
Et comment vous êtes syndiqué? Pourquoi vous êtes syndiqué?
Comment? C'était en 2004. J'avais un poste qui était un peu dur. J'ai été voir mon chef. Au lieu de m'enlever un peu de boulot, il m'a rajouté plus de boulot. Je dis, moi, je peux pas, j'arrive pas. Et après, j'ai rencontré un délégué de la CGT, M. Keltemis, là. On discutait. Il m'a fait comprendre le syndicalisme, comment faire. À force de discuter avec lui, j'ai compris les choses. Je me suis syndiqué, j'ai pris ma carte. Bon, j'ai mis mon badge. Le macaron, le gros macaron, je l'ai mis. Et voilà, tous les problèmes commencent. Jusqu'à la grève de 2005, elle a éclaté. C'est comme si on avait attaché des 100 pitbulls. Et après, la chaîne, elle s'est craquée. Les gens se sont mutilés. Voilà, et comme c'était un succès, la grève, on l'a gagnée.
C'était une grève qui était pour demander...
100%, parce qu'il y avait du chômage.
Chômage technique,
Ils voulaient nous payer à 60%, et nous, on ne comprenait pas pourquoi ils voulaient nous payer à 60%. Nous, on a demandé à être payés à 100%.
C'était votre première grève?
Ah, c'était ma première grève, ouais. Je me suis mis devant. Et quand on avait des négociations avec la direction, j'étais perdu. Hein. Déjà, juste leur vocabulaire, comment ils parlaient, moi, je ne comprenais pas du tout. Hein. mon cœur, il tapait fort, hein, parce que je bégayais même, pour vous dire. Quand je me levais pour parler, je me disais, oh, je parle au directeur, moi. Un petit caresse qui parle avec le directeur. Bon, mais après, maintenant, ça y est, ça vient naturellement. Hein.
Et maintenant, leur vocabulaire, leurs mots, leurs...
Non, il y a des mots que j'ai du mal à comprendre, par contre. Non, il y a des mots, j'ai du mal à vraiment comprendre.
Parce que vous savez, les patrons, ils sont très très forts là-dessus pour pouvoir impressionner, comme il disait tout à l'heure. Il était presque titanisé.
Un bon ami à moi.
Votre prénom?
On va dire Gino.
On va dire Gino.
Parce que tout le monde m'appelle Gino, c'est vrai que c'est pas mon prénom, sur ça les fait rire. Mais les patrons, ils sont loin d'être cons, parce qu'ils cernent un peu les personnes qu'ils ont devant. Donc du coup, ils essaient un peu de déstabiliser, c'est leur but. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir les grandes phrases, les grands mots, machin et tout. Mais en fait, c'est de la connerie, quoi.
Lui aussi, il est délégué du personnel dans une société.
Délégué syndical et conseiller des salariés. Et au final, je me foutais de sa gueule.
Il se foutait de ma gueule un peu. Oh, CGT, CGT. Et maintenant, ils sont tous dedans.
Est-ce qu'on s'est foutu de vous, justement, vous, quand vous êtes syndiqué?
Vous savez, quand vous essayez de raconter une blague et elle n'est pas marrante, là, on se fout de vous de gueule. Mais quand vous racontez la vérité, on va rire, sourire, mais on va vous écouter. Mais l'histoire de l'usine, il n'y a aucune usine qui est correcte avec ses salariés. Aucune. C'est le profit. Et le jour où il n'y a plus de profit, on les jette dehors et on va voir ailleurs. Hein. On va s'installer en Chine, en Hongrie, en Roumanie, ou quelque chose comme ça. Vous voyez?
Dans le classement des ventes de monospaces en France, le C4 Picasso occupe la première place, la deuxième place, la troisième place, la quatrième place.
J'espère que vous allez me donner la réponse. Une réponse est la bonne.
Je crois que je vais jouer C.
C'est votre dernier mot?
C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
Mais non, la réponse est bien sûr la première place.
Citroën a encore le dernier mot. Profitez de 3 500 € d'avantages clients sur Citroën C4 Picasso Collection suréquipée.
Moi, je suis d'origine marocaine. Français d'origine marocaine. J'ai grandi en banlieue.
D'accord.
À Tremblay, en France.
Vos parents, ils faisaient quoi?
Moi, mon père était invalide, donc il n'a pas pu travailler. Et la maman a failli. Mère a failli. Voilà. Ils ont galéré à leur façon pour pouvoir éduquer le mieux possible leurs enfants. Déjà, c'est un bon travail.
Vous êtes combien ?
3. C'est bizarre, hein ?
Quoi ? Pourquoi c'est bizarre ?
Vous attendez à ce que je vous dise 8, 10 ? Non, mais à première vue, vous, si vous passez dans votre véhicule et que vous voyez 4 jeunes comme ça dans un café, en train de boire leur petit café tranquillement le matin, est-ce que ça vous fleurerait l'esprit qu'on est un parti syndicaliste ou quoi que ce soit, non ? Qu'on est engagé, ne serait-ce qu'avec la CGT, par exemple ? Non, à aucun moment. Mais par exemple, si on était nous, 4 jeunes, en train de brûler une voiture, là, ça, c'est pas que vous avec le micro. Mais ce sera vous, il y aura d'autres micros, il y aura des autres caméras, il y aura toute une panoplie, en fait. En fait, aujourd'hui, les jeunes de banlieue, c'est pas ce qu'on montre à la télé, en fait. Vous voyez, donc ils se sont dit, on va aller les prendre, on va les ramener dans l'usine, on va les faire travailler, on va leur faire casser des pierres, et on leur donnera quelques cacahuètes, ils seront bien contents.
Vous bossez où, dis-moi ?
Moi, je travaille dans une boîte de transport. C'est un exemple type. Ma boîte où je bosse, donc ce patron en question, quand je posais les mauvaises questions, hop, je me suis dit, mais c'est con, j'ai posé que des questions, j'en ai fait d'autres de mal. Comment ça se fait du jour au lendemain, il est devenu méchant comme ça.
Et du coup, ça donne envie de faire quoi au début ? Enfin, je sais pas, moi je me dis.
Ça donne envie de, bah, en fait, de rentrer plus dedans et à poser d'autres questions. Et en posant plein de questions, machin comme ça, on se retrouve dedans et on se retrouve un peu à, comment on appelle ça, bah, à défendre les salariés sans le vouloir. Et vous savez, là où on se rend compte qu'ils prennent vraiment un coup de flip parce qu'on a essayé de m'acheter à plusieurs reprises. Bah, écoutez, on peut vous donner un poste de responsabilité. Finalement, vous n'avez pas l'air si con qu'on croit. Donc on vous dit directement, vous avez pris pour un con, mais je veux bien vous donner un poste de responsabilité aujourd'hui. Mais comme on dit, on n'est pas vendable.
Il est quelle heure ?
Il est midi,
on est en retard ?
On va y aller, là.
On va à l'usine ? On passe chez vous ?
On passe chez moi et après, déjà, je m'habille.
Après. C'est parti pour...
Pour le combat.
Le combat.
À 15h, ils vont vous dire... ça va être décidé aujourd'hui ?
Non. C'est juste... aujourd'hui, c'est mon entretien. Bon, ils vont me dire qu'est-ce qu'ils vont me reprocher. J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont me reprocher. Voilà, et après, ils vont m'envoyer un courrier pour savoir... soit ils arrêtent, soit ils continuent. Bon, on y va ?
On y va. C'est une petite maison en fait.
De l'extérieur, elle apparaît petite, mais l'intérieur, ça va, elle est grande. Il y a 3 chambres, il y a un salon, il y a un petit garage. Non, ça va, elle est grande.
Allez-y, je vous en prie.
Alors, ça, c'est le salon.
Ça, c'est le salon.
Il y a un jardin derrière.
Ouais, un petit jardin, c'est un petit jardin. Faut tendre de la pelouse là. Bon, je vais m'habiller pour qu'on puisse aller.
Parce que là, on va y aller pour la convocation à 15h. Ouais. Vous avez appréhendé quand même parce que.
Un peu, mais j'y pense pas. Parce qu'il y a 280 postes de supprimés, il faut qu'ils essaient de nous écarter de ces problèmes-là pour qu'on se défend sur nous-mêmes. On se défend. Ils veulent pas qu'on attaque. Bah, ils disent bon, faut qu'on attaque un délégué un peu connu pour qu'il s'occupe à le défendre. Mais nous, on fait tout.
Justement, par rapport à PSA, en plus, vous avez un t-shirt PSA. Hein.
J'ai un suite, ouais. Parce que là, bon, on s'apprête à aller au travail. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis. Là, faut que je mette mon bleu et moi ma veste et après je vais y aller. Maintenant, moi, je suis obligé de m'habiller chez moi. Parce qu'il y a 2 ans, on m'a cassé mon vestiaire, mon placard, 3 fois de suite.
À l'usine ?
Ouais, à l'usine. À chaque fois, ils m'ont pris mes affaires. Ils ont pris un manche à balai, ils l'ont coupé en deux, ils ont mis la moitié d'avant.
La moitié d'un manche à balai,
voilà, ça veut. Bon, on se comprend ce qu'ils veulent dire par là. Je venais juste d'être délégué CHS.
Bon, CHSCT, c'est-à-dire comité hygiène, sécurité.
Ouais, conditions de travail. On m'a rayé ma voiture. Tout ça, j'ai porté plainte, le vélo. Et ce qui m'a le plus fait mal, c'est les inscriptions sur ma mère dans les toilettes. Oh là, c'était... Pendant un an, c'était... Dans toutes les toilettes du montage, il y avait marqué des inscriptions sur ma mère.
Voilà. On vous disait quoi ?
Bérezel, fils de chienne, de Berkane. Berkane, c'est la ville natale de mes parents. Ils veulent que je craque. Je suis sûr, ils veulent que j'arrive au point. Pour que je tape, pour qu'ils aient une raison valable pour me virer, pour faire quelque chose.
Ahmed, ça y est, vous avez quoi les... Ah oui, chaussures de sécurité ?
Tout,
hein ? Chaussures de sécurité et pantalon, PSA et
ma veste jaune.
Anorak, la veste jaune.
Voilà.
Hop. Voilà, j'ai laissé Ahmed rentrer à l'intérieur de l'usine puisqu'il est convoqué à 15h
que là il est 14h et je vais essayer en fait de rentrer dans l'usine pour voir comment les ouvriers vont soutenir Ahmed. Ils vont débrayer normalement, mais on sait pas à combien, on sait pas si le débrayage va être suffisamment important pour que la direction revienne sur sa décision de licencier Ahmed. Et là, il y a un avion qui passe parce qu'on est juste à côté des aéroports Charles de Gaulle. Je rentre dans l'usine. Bonjour. Là, on arrive. C'est quoi? C'est un grand hangar. C'est là où on monte les voitures. C'est un grand hangar, justement, immense hangar. Ah là, il y a du bruit au fond de la salle de montage. Ah, il y a une voiture d'ailleurs. C'est la voiture qui sort de la chaîne. C'est impressionnant, elle est flambant neuve. Ah, moi je l'ai pas, c'est un bonjour. Non, au licenciement et aux suppressions d'emploi. Avec la photo de Ahmed, c'est un autocollant à mettre sur le thorax, sur le torse quoi. Et là, au milieu de l'usine, dans la salle de montage, tout le monde s'est regroupé et le boulot s'est arrêté. Délégué.
Alors, on attend de la parole. Du cigare. Alors, il y a une pétition qui a circulé dans l'usine. D'ailleurs, s'ils l'ont signé, c'est quand même très important. On est à l'effectif ouvrier à peu près 2400. Ça veut dire que près de la moitié des salariés ont signé une pétition de soutien à Ahmed et à contre le licenciement. Alors, quand la direction elle essaye de dire, de faire croire que les salariés sont contre nous, au contraire, ils le prouvent aujourd'hui, ils le sont avec nous.
Une journée particulière dans la vie d'Ahmed, délégué syndical chez PSA Peugeot à Aulnay-sous-Bois. Et là, il est dans la convocation, il est en pourparler avec la direction. Mais évidemment, pendant ce temps-là, les salariés, ses camarades, ceux qu'ils soutiennent, s'agitent à l'intérieur même de l'entreprise.
Là, ça va. M'expliquer le tableau qui est derrière nous.
Alors c'est un tableau qui indique toutes les pannes qu'il y a, tous les arrêts de chaîne, pour que les contremaîtres voient tout de suite quand ils sont dans le couloir, ils sortent de leur bureau et ils voient tout de suite si la chaîne est arrêtée ou pas arrêtée. On connaît
là,
pas tout.
Là, il y a combien de chaînes rouges?
Là, regardez. Ce qu'on voit, ouais, là, il y a, on va dire, un tiers du montage qui est à l'arrêt, là. Et ensuite, là, il y a un autre panneau où ils indiquent le nombre de voitures qui manquent. Il en manquait une vingtaine tout à l'heure, à un moment, quand j'ai regardé.
Donc là, on continue à déambuler dans l'usine.
Ouais, voilà, on passe devant toutes les lignes de montage pour montrer qu'on est là et encourager les camarades qui voudraient débrayer avec nous, qui voient qu'il y a du monde et que ça leur donne envie. On disait les chefs au boulot parce qu'on a vu plusieurs chefs travailler. C'est pour ça d'ailleurs que la chaîne était beaucoup à l'arrêt, parce qu'il y avait un moment, il y avait 3-4 chefs de suite. Là, du coup, ça arrête complètement tout parce qu'ils n'arrivent pas à faire le boulot, en fait.
Votre prénom ?
Patrice. C'est un camarade qui vient des cités, on va dire. Donc c'est un jeune copain.
Ahmed.
Ahmed, oui, Ahmed Berazel. Et ils veulent le licencier parce que justement, il a beaucoup de contact avec tous les jeunes qui arrivent ici et qui découvrent ce que c'est que l'usine, ce que c'est que le syndicalisme. Et là, la direction ne veut surtout pas que ça dure, quoi.
Il reste combien de temps avant qu'il soit convoqué? Il est quelle heure?
Il est convoqué à 15h. Donc là, il est en pleine convocation, là, pour l'instant.
Il est 15h10, donc on va... là.
Ouais, 15h10, il était convoqué à 15h. Et... Donc là, on continue à tourner et quand ils auront fini l'entretien, il va venir nous rejoindre. Voilà quoi.
Et là, il y a un chef, je vais rentrer le micro.
Lutte sociale, lutte syndicale à l'intérieur, même de l'entreprise. Ne vous inquiétez pas trop pour Peugeot. Vous avez vu, il y a des chaînes qui sont en panne et des voitures en moins. Mais vous inquiétez pas trop. PSA a un chiffre d'affaires en augmentation. PSA a annoncé en octobre 2010 9,8% d'augmentation de son chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires de 41,4 milliards d'euros pour 2,66 millions de voitures vendues, fabriquées par des gens comme Jean-Pierre.
Vous savez, ici, tout le monde vient d'une cité, hein. On est ouvrier. Ce qui est sûr, c'est qu'ils tapent sur les jeunes parce que c'est eux qui refusent le plus les sales conditions de travail dans lesquelles ils veulent nous faire travailler. C'est eux qui refusent le blocage des salaires, c'est eux qui veulent faire embaucher leurs copains qui sont intérimaires, c'est eux qui demandent à ce que les vieux ils partent à la retraite à 55 ans parce qu'ils sont en train de crever sur chaîne. Et c'est vrai que c'est les jeunes aujourd'hui qui relèvent la tête, mais c'est aussi derrière tous les anciens qui suivent. C'est le représentant de toute cette jeune génération d'ouvriers qui ont compris que leur seul avenir, ça sera de lutter collectivement contre PSA pour imposer des revendications où on puisse s'en sortir quand même. Parce qu'il y en a, franchement, il y en a marre de travailler dans ces conditions, il y en a marre d'avoir des salaires de merde comme on a. Et il faut que ça change. Alors quand il y a une direction comme PSA qui tape sur Ahmed, c'est sûr, il y a une grosse solidarité. On le voit aujourd'hui.
C'est étonnant quand même.
En tout, sur les deux équipes, il y aura facilement plus de 400 ouvriers qui auront participé au débrayage. Et c'est une belle démonstration de force et c'est qu'une première étape parce que c'est certain que la direction, elle ne va pas en rester là. Ils vont sûrement continuer. Il y aura d'autres grèves pour défendre Ahmed. Et puis il y a aussi la direction, elle utilise toutes les provocations. Elle a fait monter au créneau son syndicat maison, le syndicat patronal, le SIA. C'est un syndicat que personne ne connaît à l'extérieur de Citroën.
Il s'appelle SIA,
c'est le syndicat indépendant de l'automobile. En fait, ils sont indépendants surtout des ouvriers. Et ils ne sont pas du tout indépendants de la direction. Historiquement, c'est un syndicat d'extrême droite. Il découle de la CSL, Confédération des syndicats libres, de la CFT, Confédération française du travail. C'est un syndicat qui a été mis en place par la direction de Citroën dans les années 60-70, qui avait des liens avec le sac de Pasqua. Enfin, tout ça, c'est des vieilles histoires. Son slogan, c'est travail, famille. On se doute du reste et ils ont fait dans leur tract un tract incendiaire. Ils parlent de jungle. Ils disent « Nous ne sommes pas dans la jungle ».
Ça voudrait dire quoi, que PSA est une jungle ?
Les ouvriers, pour eux, c'est des animaux. Voilà, c'est des singes, des animaux. Voilà ce qu'on peut comprendre de leur phrase, où tout le monde l'a ressenti, qu'on soit immigré ou pas, comme une insulte. De toute façon, ils déversent vraiment leur haine, tellement ils ont de zèle à défendre le patron. La réponse, elle est claire, elle est nette. C'est des centaines d'ouvriers qui débrayent et qui vont débrayer encore jusqu'à temps que la procédure de licenciement elle soit levée sur Ahmed. Et moi, j'en suis convaincu, on va le sauver et il va rester parmi nous.
On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. Deux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Deux, parce que la vie est un combat. Ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. C'est un pour les miens, arabes et noirs pour la plupart. Et pour mes babtous, prolétaires et banlieusards. Le deux, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, y'a de France qui peut nier. Et moi, je suis de la deuxième France. Celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime mais un soldat qui a tout fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres. Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère, la violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent. Malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations. Malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions. Leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Toi vois un lâche ou un soldat, entreprend et bats-toi. Banlieusard et fier de l'être, on n'est pas condamné à l'échec.
Hein? Alors Ahmed, comment ça s'est passé? C'est une victoire ou quoi?
Moi je pense que c'est une victoire. Ce qui me reproche, c'est bidon. Ils disent que l'entretien du 25 et c'est mal passé, on n'a pas eu le temps de le finir. C'est bidon.
Vous aviez eu déjà un entretien de 25.
Voilà. Et là, ce qui me reproche maintenant, c'est parce que soi-disant, l'entretien s'est mal passé. Mais non. Pour vous dire, d'habitude, ils vous convoquent pour une sanction. Là, ils n'ont pas dit on vous convoque pour un licenciement. Ils n'ont même pas dit ça.
Alors, du coup, vous êtes sorti, vous dites reprenez le boulot, tout va bien?
Bah non, c'est l'entretien. Après, ils vont m'envoyer un courrier, à mon avis. Ils vont m'envoyer un courrier si ils me licencient ou ne me licencient pas. Ah, je sais pas.
Mais ils n'ont pas parlé de licenciement, là?
Non, j'ai pas entendu le mot de licenciement dans leur bouche. Hein. Je l'ai pas entendu. Là, c'est que la première étape. C'est le premier rang. On leur a mis, voilà. Ils n'ont pas de mots. On va faire en sorte qu'ils arrêtent. Mais je leur donne un conseil. Monsieur PSA, arrêtez vos conneries. Je suis content, je suis l'homme le plus heureux du monde. Hein. C'est bien passé. Il y avait plus de 400 personnes qui ont débrayé. Là, maintenant, c'est la direction qui a une boule au ventre. Moi, j'ai pas eu de boule au ventre. Il n'y a que la usine à PSA qu'on voit ça. Surtout, moi, je travaille en logistique. Toute la logistique est arrêtée. Vous voyez, des petits jeunes qui ont 18 ans jusqu'à le vieux qui a 60 ans, ils se sont tous arrêtés. Toute
vous
la
avez ressenti quoi?
Heureux, fier. Fier de ce que je suis là, ce que je suis devenu. Hein. Voilà, bah oui, je suis fier. Vous savez, 400 personnes. Même à mon mariage, j'avais pas autant de monde. Voilà, maintenant la pression, elle est retombée. Elle est retournée contre eux, elle est pas contre eux.
Ils vont baisser la tête, bah ils y arriveront jamais. Jamais, jamais, jamais.
Il y a le compte rendu.
On va écouter pour le compte rendu pour Ahmed. Alors.
Ahmed. Les camarades, je voulais remercier tous les camarades. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les camarades de l'équipe A, de l'équipe B, tous les copains des autres syndicats aussi qui sont là.
Les intérimaires.
Voilà, tout le monde. Les intérimaires, les contrats pro. Et moi, je tiens à vous dire un truc. Le SIA, ils veulent nous salir. Ils disent qu'on est des délinquants. Ils disent qu'on a organisé une chasse à l'homme. C'est eux qui sont en train d'organiser une chasse à l'homme. Contre nous.
Ouais.
Contre moi, mais contre tous les copains, tous les frères.
Ouh.
Les camarades, moi, le premier, quand je suis venu, c'est pour travailler. C'est à cause d'eux qu'on est. C'est à cause d'eux, moi j'y. La direction là, qui nous regarde derrière là, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux, ils veulent nous monter les uns contre les autres. Moi je tiens à vous dire, les camarades, faut qu'on reste unis comme ça. Dès qu'il y a un camarade qui a un problème, faut que tout le monde est là.
Ouais,
n'oubliez pas une chose, n'oubliez pas une chose, les copains. En 2007, qu'on a fait 6 mètres de grève, on avait une carte de gréviste. Ouais. Eh ben, faut la ressortir.
Ouais.
Dès qu'on touche un copain, on a touché à tout le monde.
Ouais.
Et je tiens à vous leur dire là-bas, on n'est pas des délinquants.
Ouais.
On n'est pas des délinquants.
Ouais.
Mais c'est pas la jungle.
Ouais.
C'est pas la jungle.
Ouais.
C'est grâce à nous que vous êtes plus salaire.
Ouais.
La force des travailleurs.
C'est la grève.
La force des travailleurs.
C'est la grève.
C'est les ouvriers.
Ouais.
Merci.
C'était Ahmed.
Alors, on fait un petit tour, on fait un petit tour et après on reprend le boulot. La force des travailleurs,
c'est la grève.
La force des travailleurs,
c'est la grève.
La force des travailleurs,
c'est la grève.
C'est les ouvriers.
Ouais.
Bon, on est pas dans la camp, vous voyez, il y a que...
Je sais pas.
Regardez comment c'est bien. Il y a un portugais, il y a un arabe, il y a un... Il y a un Algérien, il y a un Gaouri, il y a des Marocains, il y a des Kabyles, voilà.
Surtout,
on n'est pas des Danakans, on est
surtout aussi, on est des syndicalistes. Moi, c'est des anciens comme M.
Zouer.
Vous avez quel âge?
59 ans. 37 ans de travail, 37. Bientôt 38.
Chez PSA.
Ouais.
Quand ce monsieur-là a fait grève, en 82, j'avais 4 mois.
Franchement, moi, ces anciens-là, là, les anciens de 82, c'est le plus beau exemple. Parce que 82, c'était une année pas évidente pour les étrangers. Ils savaient ni lire ni écrire à l'époque. Bon, nous, ça va, nous, on a été à l'école, on a eu des diplômes. Mais ces gens-là, c'était plus difficile. Déjà, la chaîne, c'était tout ce qui était manuel. Il y avait pas le travail, il était plus dur.
Nous, on est content le moment qu'ils ont rentré les jeunes. On est content. Parce que les jeunes, ils étaient à l'école. Ils connaissent la loi, ils connaissent tout. Mais nous, avant, les vieux, surtout les vieux qui sont partis en retraite, ils viennent du montant, ils ne connaissent rien du tout.
On est là pour défendre les ouvriers. Un exemple, Ahmed, à chaque fois qu'il a défendu les ouvriers, bah, il s'est fait sanctionner. Et c'est que des prétextes bidons.
Est-ce que vous croyez qu'à l'époque, ça les embêtait que les ouvriers immigrés se syndiquent, et aujourd'hui, ça les embête que ce soit les jeunes des cités qui se syndiquent? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu le même... non? Est-ce que vous pensez que PSA, ils ont le même regard sur vous deux? Vous êtes de deux générations différentes et deux...
Et c'est porte pas le changement, la transmission de l'élite, l'ancienne génération, et ils n'étaient pas combattantes comme la nouvelle génération. Du coup, ils sont sous le choc en voyant la nouvelle génération ici de... en général, ici de l'immigration, qui rejoint l'élite, alors ils ne supportent pas ça.
En 2007, ils pensaient qu'avec les vieux qui partaient, surtout, ils se sont dit, chouette, on va pouvoir se débarrasser des vieux, de l'histoire de la grève de Citroën-Aulnay. Et finalement, avec la grève de 2007, eh bien, on a vu ressurgir une nouvelle génération de militants, un renouvellement de la combativité, et ça, s'y attendaient pas. Ils pensaient pouvoir individualiser chaque ouvrier, chaque travailleur sur les chaînes pour pouvoir en tirer le plus de profit possible. Et aujourd'hui, vous avez la preuve aujourd'hui qu'il y a un collectif qui s'organise, des travailleurs solidaires qui se battent ensemble, et c'est ça qui leur fait peur, c'est ça qui leur plaît pas.
Merci à tous. La racaille relève la tête. Un reportage de Pascal Pascariello. Merci à Ahmed Berazel, merci à Gino, à Philippe et à tous les salariés de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois. Merci aussi à notre Gaylor Van Vimersch pour l'élément de reportage du 1er mai à Paris. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis nous avons aussi notre page Facebook où nous pouvons nous retrouver. À la technique aujourd'hui, Yann Bouillot et Gilles Gaillard, Bertrand Chompton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touillez. Et Grégory Salomonovitch lui-même attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 réclame.
France Inter, partenaire de Jazz à Vienne, du 28 juin au 13 juillet. Une 32e édition qui donne place aux cordes, de la guitare au piano en passant par les voix. Avec Erika Badou, Alvin Neola, McCoy Tyner, sans oublier de fabuleux talents, avec entre autres Esperanza Spalding, Tigrane Massian et Richard Bonnat. À retrouver dans les programmes de France Inter et sur franceinter.fr.
McCoy Tyner quand même. On se retrouve demain à 15h pour la basse si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Après Vladimir Poutine qui retrouve le Kremlin, Dmitri Medvedev renoue aujourd'hui avec le poste de Premier ministre. La Douma, le Parlement russe, l'investit cet après-midi. Dans son discours, Dmitri Medvedev a promis d'écouter toutes les forces politiques représentées à la Douma. Une permutation de poste qui a provoqué la colère de quelques opposants. Ils ont manifesté la nuit dernière à côté du Kremlin. Une vingtaine d'entre eux ont été arrêtés. La gauche démocratique grecque qui a obtenu dimanche 19 sièges au Parlement lors des législatives dit oui cet après-midi à un gouvernement de coalition, mais seulement si c'est un gouvernement de gauche. Alexis Tsipras, de son côté le leader de la gauche radicale, arrive en deuxième position. C'est lui entretenu avec le président grec, Papoulias, mais il met une condition à un gouvernement de coalition. Il faut qu'il ne soutienne pas l'austérité, comprenez qu'il ne soutienne pas le plan de redressement de la Grèce dicté par l'Union européenne et le FMI. Première conséquence aujourd'hui à la Bourse de Paris, l'euro est descendu sous la barre des 1,30 $. En France, François Hollande annoncera le nom de son Premier ministre mardi prochain, le jour de la passation de pouvoir avec Nicolas Sarkozy. D'ici là, ce sera au gouvernement Fillon de tourner la page et ce sera fait demain lors du dernier Conseil des ministres à l'Élysée. Le chef du gouvernement fera alors le bilan de son quinquennat. Après avoir validé aujourd'hui une nouvelle fois les candidatures aux législatives dans le cadre de l'accord avec le Parti Socialiste, les cadres d'Europe Écologie Les Verts ont voté cet après-midi à une large majorité leur éventuelle participation à un gouvernement si François Hollande fait appel à eux. Déjà hier, Cécile Duflot, la secrétaire, s'était prononcée pour ce scénario. Toujours à propos d'Europe Écologie Les Verts, un élu du Nord-Pas-de-Calais s'est rendu aujourd'hui de lui-même à un commissariat belge. Il était recherché depuis mai 2011 pour avoir fauché un champ de pommes de terre transgéniques près de Gand. 7e jour de grève pour les marins de la CGT. Conséquence, le trafic entre la Corse, des bateaux de la SNCM et de la Méridionale, donc les trafics entre la Corse et le continent, est toujours perturbé. Les marins grévistes réclament toujours l'application des mêmes lois sociales pour toutes les compagnies assurant les liaisons donc entre la Corse et le continent. À l'étranger, des dizaines d'anciens rebelles libyens ont pris d'assaut aujourd'hui le siège du gouvernement à Tripoli. Ils ont encerclé le bâtiment, tiré dessus. Ils réclament leur part, en fait, des primes distribuées aux rebelles ayant combattu l'ancien régime. Il y a au moins 2 morts. Pendant ce temps, le premier procès civil de partisans de l'ancien dictateur Kadhafi s'est ouvert, lui, aujourd'hui à Zawiya, à l'ouest de Tripoli. Retour en France, une information judiciaire vient d'être ouverte à Paris pour violence, agression sexuelle et viol en réunion. Cela fait suite à la plainte déposée dimanche par un sapeur-pompier de Paris de 24 ans qui accuse certains de ses collègues d'avoir abusé de lui. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Londres ont cédé aujourd'hui aux pressions. Les sites olympiques seront autorisés cet été aux bébés, à condition qu'ils soient portés, harnachés par leurs parents. Une réponse en fait aux protestations formulées par des mères indignées qui estimaient que la décision des organisateurs à l'origine constituait une violation des droits sur l'égalité entre les sexes. Et puis, il a été le meilleur buteur du championnat de France de première division en 1986. C'est du football. Jules Bocandé, ancien attaquant sénégalais, passé par Metz, Lens, Nice ou encore le PSG, est mort hier des suites d'un AVC. Il était âgé de 53 ans. Vous écoutez France Inter, 16h04.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous attends nombreux pour des enregistrements en public du jeu des 1000 euros. Aujourd'hui, mardi, dans l'Oise, à Verberie, à l'espace d'Agobert, à 18h30. Et demain, mercredi, dans l'Aisne, à Serecourt-le-Grand, à la salle des fêtes, également à 18h30. Les sélections se font sur place à la même heure.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je l'ai pas accablé.
Attends une seconde.
Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer. Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon. Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter. La différence.
Et bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Merci Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. En ce jour de célébration de la victoire et donc de la paix, voici un pianiste qui nous prouve, s'il le fallait encore, que la musique n'a pas de frontières. Il s'appelle Eugène Ingic, il est franco-américain et quand il avait 16 ans, un critique de Copenhague a écrit « Joue Chopin comme un Polonais, Debussy comme un Français, Prokofiev comme un maître russe ». Le voici dans la fantaisie impromptue de Frédéric Chopin.